Je suis là pour vous parler de la Journée mondiale de la jeunesse, c'est sûr. Mais on m'a demandé tout d'abord de vous dire quelque chose de Jean-Paul II. Hier soir, lors de la veillée, on parlait des témoins et on rappelait Saint Jean Bosco, la petite Thérèse, Saint Maximilien Kolb. C'est des témoins qui nous ont précédés. Nous avons, heureusement, d'autres témoins qui vivent parmi nous et que nous pouvons approcher, que nous pouvons côtoyer dans notre vie de chaque jour. L'un de ces témoins, je crois, c'est justement le pape Jean-Paul II. Vous le voyez souvent à la télé, dans les journaux. Vous avez suivi, je pense, dernièrement son voyage en France. On dit plein de choses du pape et on essaye toujours de le définir, de donner une définition. C'est un philosophe, c'est un homme intellectuel, c'est un pasteur, c'est quelqu'un de courageux, c'est lui qui a fait changer la situation dans l'Europe de l'Est, etc. On dit plein de choses. Je crois qu'il y a une définition qui est la première et la définition fondamentale de Jean-Paul II. C'est celle qui dit que Jean-Paul II est un homme qui prie, est un homme de prière. Avant tout le reste, avant d'être un pasteur, avant d'être un professeur, etc., c'est quelqu'un qui prie. Et ce qui m'a frappé depuis la première fois que je l'ai rencontré, et tout au long des occasions que j'ai eues de partager avec lui, c'est sa capacité de vivre dans la prière. C'est incroyable de le voir, vous avez vu encore dernièrement à Saint-Andoré, à Reims, au milieu d'une foule immense, il se met à genoux et il prie comme s'il était tout seul. Il a cette capacité de concentration, je dirais mieux, de se mettre à la présence de Dieu. Et là, c'est la chose la plus importante pour lui. Même quand il a salué les malades, les enfants, quand il a parlé avec plein de monde, il se met devant l'autel, devant un crucifix, il se met à genoux et on le voit plonger dans la prière. Et c'est vraiment comme s'il était tout seul. Les gens peuvent chanter, peuvent hurler autour de lui, on lui fait des danses. Vous pensez en Afrique, par exemple, l'accueil, c'est toujours très chaleureux, etc. Quand il prie, c'est comme s'il était tout seul. Et je crois que c'est la composante la plus importante, fondamentale de sa vie. Il garde cette relation personnelle d'écoute, de dialogue avec le Seigneur. Toute sa journée est remplie de prières, commençant tôt le matin, vers 5h30, il est à la chapelle pour faire sa prière personnelle. Et à 7h, il célèbre la messe. Et après, tout au long de la journée, dès qu'il a un moment, il est soit à la chapelle, soit il sort son chapelet de sa poche et il prie le rosaire. Dans son appartement au palais pontifical à Rome, il y a une chapelle, évidemment, et il y a toutes les autres pièces. Alors, chaque fois qu'il doit se déplacer de son bureau à la bibliothèque, de la bibliothèque à la salle à manger, et dans les autres pièces, il passe toujours par ce couloir. Et il rentre chaque fois à la chapelle. Il se met un instant à genoux au fond, à côté de la porte, et il fait son acte d'adoration. Quand il va, quand il revient, chaque fois pendant la journée. Et il vit toute la journée avec, je dirais, cette ligne de continuité. Le rapport personnel dans le silence, dans l'adoration avec le Seigneur. Même pendant les voyages pastoraux qu'il accomplit, quand il doit se déplacer en avion, en voiture, en bateau, en hélicoptère, etc., c'est toujours soit avec son bréviaire, soit avec son chapelet. Et tout le temps, je me souviens un jour, on se rendait en Corée pour le congrès eucharistique international, et il est toujours assis à côté de la petite fenêtre dans l'avion. Il avait son bréviaire, il priait de temps à autre, il fermait le bréviaire et regardait en bas, longuement. Après, il levait sa main et il faisait un petit signe de croix. On était en train de survoler la Russie, juste par hasard. Et après, il reprenait la prière et encore, grand silence en regardant.